DW, le club de l'auditeur.
Ce sera mercredi 15 mai, la journée internationale des familles. L'occasion de s'interroger sur la place qu'occupe la famille aujourd'hui et les défis auxquels elle est confrontée. C'est le sujet de cette édition du Club, l'émission qui vous donne la parole, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Mireille dans le micro, bienvenue à toutes et à tous.
Sans mes parents, mes frères et sœurs, c'est un très, très grand.
Moi, je crois qu'un individu sans famille est comme un homme qui se retrouve seul dans un désert, nous écrit Camilou du Bénin. La famille a toujours été un lieu d'épanouissement, d'éducation et d'union, estime Franck de Côte d'Ivoire. Laetitia de Kinshasa en est elle aussi persuadée, elle s'explique.
Moi, je dirais toujours que la famille reste la source de la vie. Parce que c'est dans la famille que naissent les enfants, c'est dans la famille qu'on a l'éducation, c'est dans la famille que les enfants grandissent. Et pour nous, les Africains, la famille représente vraiment une chose très importante. Donc, pour parler d'une femme africaine ou bien pour identifier une femme africaine, souvent on voit toujours son origine, c'est-à-dire d'où elle vient, de quelle famille elle vient, de quelle famille elle a grandi. Donc, c'est un peu ça, la famille reste la source de tout. Pour moi.
Ça détermine, pour ainsi dire, déjà votre vie et la personne que vous allez être et la façon dont on vous regarde, dont on vous voit aussi.
Exactement, exactement, oui, oui.
Mais est-ce qu'il est possible aussi quelquefois de pouvoir se démarquer de sa famille? Parce qu'on n'a pas toujours de la chance avec la famille dans laquelle on grandit. Quelquefois aussi, on n'a pas justement de parents à cause de nombreux aléas, de maladies, de la guerre, ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a toujours cette grande famille élargie, ce qui fait qu'on est quand même prise, retenue par un filet, on va dire? Ou est-ce que c'est difficile à vivre dans ces cas-là?
Bon, moi je dirais toujours que c'est très difficile de vivre sans sa famille. Parce que les réalités auxquelles on va faire face, les autres n'auront pas toujours cette compassion-là pour vous, encore moins cette façon, cette manière de comprendre, de vous aider, si je peux dire ça. Mais ça arrive aussi que on n'a pas une famille et qu'on se retrouve dans certains milieux ou dans certains pays où on doit s'adapter, on crée une autre famille, mais cela n'empêche pas que vous puissiez penser quand même à votre famille, essayer de retrouver vos sources. Dans le cas où, par exemple, dans les cas des guerres, les gens qui sont à l'est et qui ont perdu des proches, mais il y a encore une autre partie de la famille élargie qui reste en vie. Alors, une fois que vous êtes séparés d'eux, dès que vous êtes dans une situation où vous pouvez renouer le contact avec la famille, ça ne pose pas un problème que vous puissiez rentrer en contact avec la famille. Mais bien que c'est très difficile de vivre vraiment sans la famille, vraiment, c'est vraiment une situation qui met vraiment, même les enfants, quand il est séparé de sa famille, les enfants ont du mal à s'adapter, même par leur manière de se comporter. Vous allez voir que non, les gens disent que non, aujourd'hui, on est avec les situations des enfants de la rue, toutes ces histoires-là des délinquances. Parce que dès le bas âge, il n'y a pas eu vraiment l'encadrement au niveau de la famille. L'enfant a été séparé très tôt de la famille. Tous ces traumatismes, elle a pu affecter la vie un jour, si je peux dire.
Bien sûr. Et vous pensez qu'il y a encore cette solidarité donc, qui fonctionne dans la famille? Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a une évolution avec le temps des familles qui étaient beaucoup plus nombreuses autrefois et quelquefois qui se réduisent plus aux parents et aux enfants, mais plus à toute la concession, aux tantes et ainsi de suite.
Bon, moi, je dirais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie et avec le réseau social, c'est devenu un peu, comme on dit, c'est très difficile de parler un peu de la cohésion au niveau de la famille parce qu'aujourd'hui, les gens s'identifient pas seulement par rapport à leur famille, mais par rapport à tout ce qui se passe aux réseaux sociaux, par rapport à tout le point de vue que les gens rencontrent au niveau des réseaux sociaux. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, la cohésion est un peu difficile, même au niveau de la famille. Mmh. Et puis, avec les histoires d'église de réveil, chacun a sa manière de penser. Comme on dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Quand une personne a un autre point de vue, il se sépare de sa famille facilement. Parce que le pasteur a dit, parce que j'ai entendu ceci sur les réseaux sociaux, les gens prennent ça comme une idée conçue. Et on peut dire que la cohésion aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de vraiment de difficile, vraiment. Parce que c'est difficile aussi aujourd'hui de déplacer, d'aller voir la famille, se rassembler. C'est devenu une occasion de deuil ou encore de manifestation. Parce que les réseaux sociaux, là, on se dit, non, je peux l'appeler, je peux le joindre, je peux le voir par vidéo. Donc, c'est devenu un peu compliqué. Mmh.
Mais est-ce que l'urbanisation a eu peut-être aussi les exodes dus, par exemple, à la guerre, mais pas seulement, pour des raisons économiques aussi, je pense, a peut-être quand même modifié justement la structure de la famille et les rapports entre les membres de la famille?
Oui, oui, c'est comme on a évoqué au début, là, aujourd'hui, avec la guerre aussi, tous les problèmes que l'Afrique fait face, l'immigration, toutes ces histoires-là, ça a aussi modifié la cohésion, toutes ces façons de voir la famille, si je peux dire.
Et l'impact économique, est-ce que ça joue aussi un rôle? C'est-à-dire que autrefois, une famille qui aurait été une famille, vous auriez dit, bon, ben, moi, je veux avoir 6 enfants, je dis n'importe quoi. Est-ce que du coup, on revoit un petit peu à la baisse, sachant qu'il faut envoyer les enfants à l'école, que tout ça a un coût, que la vie augmente, le coût de la vie augmente?
Exactement. Oui, le coût de la vie aujourd'hui impose à certains couples de réduire les trains de vie, la maternité, entre autres, parce qu'on s'est dit, si on a 5 enfants, il faut les nourrir, comme vous l'avez dit, les envoyer à l'école, les entretenir, les loyers, les logements, tout ça, ça coûte cher. Et quand on prend en compte tous ces paramètres-là, et on s'est dit, non, on s'arrête là, et avec 2-3 enfants, on adopte les systèmes européens, si je peux dire, les systèmes américains, où on peut dire, non, avec 2 enfants, je peux les élever correctement, les donner une bonne éducation, que d'avoir 5-6 enfants pour aujourd'hui, que je puisse seulement garder 3, et peut-être 2 se retrouver dans la rue, ou encore 2, juste à 18 ans, l'enfant fait ce qu'elle veut, elle peut se donner à la prostitution, juste pour avoir l'argent, parce que les parents ne sont plus en mesure de prendre les enfants en charge. Moi, j'estime que aujourd'hui la situation économique a vraiment un impact très sérieux au niveau de la famille.
Mais la famille reste le noyau de jeunes femmes ou hommes congolais. Quand ils pensent à leur avenir, ils imaginent leur avenir par un mariage, avoir leur partenaire, fonder une famille. Ça reste le principe de base, l'idéal.
Oui, ça reste vraiment l'idéal en tout cas.
D'accord. Mais je vous remercie en tout cas beaucoup.
D'accord.
Au revoir.
Au revoir.
La famille est pour moi une institution bien structurée et ordonnée, bien que les problèmes ne manquent jamais entre les êtres humains, observe Hyacinthe du Congo-Brazzaville. Mais la cherté de la vie, en milieu urbain surtout, fait que l'on limite le nombre de membres vivant sous le même toit. Ce qui contrarie Hyacinthe par ailleurs, c'est que dans sa coutume, l'appartenance familiale est matrilinéaire. Les garçons ne sont donc pas membres à part entière de la famille de leur papa, ce qui est frustrant, écrit-il.
Avec grand-père, avec grand-mère, avec ma sœur, avec mon frère, avec ma mère. Avec mon père, la famille.
Du Togo, Darius accorde à la famille une place capitale. Mais avec l'individualisme qui se propage, il regrette que les enfants soient un peu délaissés par des parents trop concentrés sur eux-mêmes. On l'écoute.
La famille est une chose très primordiale. Sans la famille, personne n'existe. Je suis très rattaché à ma famille.
Oui, et pourquoi vous pensez que c'est tellement important?
Puisque le père et la mère se sont mis au monde par quelqu'un. Si eux aussi refusaient de mettre au monde là, je ne savais pas si je pouvais exister aujourd'hui.
Bien sûr. Vous avez besoin de vos parents comme soutien pour pouvoir vivre tout simplement aussi.
Oui, exactement ça.
Moralement aussi, à tout point de vue.
Oui, moralement, physiquement, presque sur le plan social, quoi.
Mais qu'est-ce qui se passe quand une famille perd, par exemple, soit un père, soit une mère, soit les parents, quelquefois par maladie ou par accident, ainsi de suite? Est-ce que la famille élargie peut prendre le relais ou est-ce que parfois des amis peuvent compenser cette perte, par exemple, aider à faire le deuil ou à compenser la perte?
Oh, vraiment, selon nous, en Afrique ici, certains se disent qu'ils peuvent prendre la charge des enfants du défunt. Mais par conséquence, au final, il l'abandonne. Mais s'il arrivait que le père ou bien la mère, par mégarde, a eu des accidents comme ça et perd sa vie, c'est toute une choc très grave qui agit sur les restes qui sont en vie.
Oui.
Surtout sur ses enfants et sa femme, quoi.
Oui. Vous disiez, qui est-ce qui prend en charge?
Parfois, le petit frère du défunt, soit le grand frère du défunt.
C'est ça. Mais les frères, quelquefois, refusent pour des raisons économiques, peut-être, ou pourquoi?
Oui, parfois, ils disent qu'ils peuvent prendre toutes les charges économiquement, soit selon l'économie de son... Ou soit si l'enfant veut fréquenter n'importe où, bien, tous ses besoins, quoi.
Oui.
Ils disent qu'ils peuvent prendre les charges-là. Mais en fin de compte, ils l'abandonnent. Ils disent de n'importe quoi.
Parce que dans ces cas-là, en effet, ça peut être trop pour quelqu'un de subvenir aux besoins de 2 foyers, d'avoir 2 foyers à charge.
Oh, c'est une question de conscience. Hein. Ou bien, tout ça, ça dépend de l'économie ou bien de son emplacement financier.
Oui.
S'il se peut, qu'il peut s'en charger de 2 foyers, et il sait qu'il ne va pas l'abandonner en cours de route, il n'a pas de problème.
Oui.
Mais s'il sache bien qu'en cours de route, il pourrait l'abandonner, là, vaut mieux qu'il ne commence même pas.
Et est-ce que du coup, le nombre de divorces, par exemple, est limité parce que justement, on tient absolument à rester en famille pour que les enfants, par exemple, ne soient pas séparés? Ou est-ce qu'il y a quand même une évolution dans la société d'aujourd'hui qui fait que, bon, il y a peut-être des familles qui se fracturent?
Oui. Côté divorce aussi, ça dépend aussi des parents, la compréhension et la patience. C'est les deux choses que moi, je vois. C'est un point éphémère sur la patience et la compréhension. Ça, la patience, là, tout ou tard, il y aura divorce.
Oui. En tout cas, vous pensez que la famille, pour l'instant, elle reste quand même le pilier de la société. Ça reste toujours une pierre fondamentale.
La société, oh, c'est abandonné. C'est abandonné globalement, puisque les gens ne s'intéressent plus de la famille en tant que telle. Même moi, là, je ne sais pas quoi.
Ah bon? Vous pensez que la société, quand même, n'accorde plus autant d'importance à la famille? C'est ça que vous voulez dire?
Oui, exactement ça. Puisque le père part le matin et dit il est parti au boulot, il est retourné très tard, il est fatigué, il se douche, il mange, il se couche. Le matin, très tôt, il part. La dame de même. Quand est-ce qu'il aura du temps pour vérifier, pas que ce soit à la maison? Puisque ce n'est pas n'importe quel parent qui se surcharge pour pouvoir vérifier les charges des enfants à la maison au retour de son boulot. Ce n'est pas n'importe.
Oui, c'est-à-dire vous pensez que ce sont les enfants, en fait, qui souffrent du fait que les parents sont plus concentrés sur eux-mêmes, sur leur travail, et du coup, les enfants en pâtissent parce qu'ils se sentent un petit peu abandonnés.
Exactement ça.
Et comment vous expliquez ça? Est-ce que vous pensez que c'est en effet pour des raisons économiques que le papa et la maman travaillent beaucoup et sont beaucoup hors de la maison? Ou est-ce que c'est aussi peut-être une évolution dans la société, plus d'individualisme, où chacun pense à son intérêt, à soi, personnel?
C'est de l'individualisme, ça.
Ce ne sont pas des raisons économiques, selon vous?
Non, mais parfois, au cas échéant, c'est question économique.
Oui.
Au cas échéant, la plupart, c'est côté question économique. Puisqu'il pouvait dire, ah, je suis de retour, je n'ai pas de sous dans la poche. Si je pose cette question à l'enfant, là, il va me dire qu'il a besoin de ça, il a besoin de ça et de ça. Vaut mieux que je profite, dire que je suis fatigué. Demain, je retourne au boulot. Ça me suffit largement. Il y a certains qui peuvent dire, côté économiquement, c'est ça. Il y a certains qui disent, ah, forcément, c'est le temps.
Oui, qui ont peur que les enfants leur demandent, oui, pour les études ou pour quoi que ce soit, un peu d'argent et qui ne peuvent pas donner, en fait.
Oui.
Donc, les choses évoluent quand même, mais pas forcément en bien, selon vous, dans la société.
Les choses évoluent, mais avec des peines et des difficultés.
Parce que la société devient plus individualiste, vous pensez?
Oui, la société devient de plus en plus individualiste. Puisque la maman dit qu'elle veut économiser quelque chose pour ses enfants, pourtant le père veut économiser pour toute la famille.
Oui.
Il y a des cas aussi comme ça.
Et vous, personnellement, quel est votre projet d'avenir? Vous aimeriez fonder une famille ou avoir une grande famille, ou peut-être en avez-vous une déjà?
Moi, si à faire des projets d'avenir, là, j'ai des projets comme ça, mais je n'ai pas encore débloqué ça. Puisque je me suis fixé à dire, avant de faire une famille bien, avant de poser, je dois avoir un boulot et avoir ma propre base avant de déclencher en disant que j'ai une famille. Et personnellement, ça.
Oui, parce que c'est une responsabilité, évidemment, d'avoir une famille. Donc, il faut être sûr de soi et en avoir les moyens, selon vous. Enfin, être prêt pour ça.
Oui. Avant d'avoir une famille, au moins, il faut avoir au moins un boulot, un job sous la main. Quoi.
Avant de pouvoir s'engager.
Oui, avant de pouvoir s'engager.
Est-ce que les jeunes, maintenant, se marient toujours au même âge que leurs parents ou leurs grands-parents? Ou est-ce qu'ils se marient un peu plus tard, maintenant?
Oh, maintenant, bon. D'autres se marient un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt, d'autres ne vérifient même pas l'âge, mais ils s'engagent en disant qu'ils se marient.
Ok. Et je vous remercie, Darius.
Ok.
Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès, alors.
Merci.
Bon courage à vous.
Merci. À vous, pareil.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Bye.
Freddy, jeune Congolais de RDC, trouve de son côté du réconfort auprès de ses amis. Pour des raisons économiques, je suis loin de ma famille depuis 10 ans, écrit-il. Alors oui, les amis remplacent souvent la famille. Les miens sont devenus mes frères et sœurs.
To get you out of this old mess, all you got.
got to do is call, and they will do the rest. Je cherche ici, je cherche là-bas.
La famille, voilà quelque chose de sacré, affirme Saliou du Bouïkon au Bénin. La famille est ce cercle avec qui l'on partageait ses secrets dans le passé, mais aujourd'hui, avec la modernité et les réseaux sociaux, les problèmes qui devraient être dans le cercle restreint de la famille se retrouvent sur la place publique. Avant, en cas de problème dans le couple, c'était à la famille que l'on se référait pour trouver solution. Les oncles et tantes des époux se réunissaient. Mais aujourd'hui, tout ça est remplacé soit par les conseillers conjugaux, les amis ou par le tribunal dans le pire des cas. Nous devons retourner à ces fondamentaux, suggère Saliou. Salma du Tchad pense de son côté que la famille doit évoluer, mais il faut être vigilant pour garder l'équilibre, dit-elle.
En fait, pour moi, la famille, c'est avant tout un partage. Hein. C'est une transmission, c'est un ensemble de partage de valeurs et c'est également au-delà de la consanguinité. Parce qu'en Afrique, quand on parle de la famille, c'est plus dans un sens large. Quoi.
Oui.
Généralement, c'est pas dans le sens espoir où ça se limite au père, à la mère, aux enfants, mais la famille, ça va au-delà. C'est des personnes avec qui, dans un premier temps, on partage des valeurs, selon des valeurs humaines et puis des valeurs également historiques.
Oui.
Et identitaire aussi, c'est très important, identitaire aussi, parce que quelque part, il y a également les questions de transmission et puis de partage également des valeurs souvent ancestrales.
Oui.
Ancestrales et également des valeurs actives. Parce que aujourd'hui, moi, par exemple, quand je prends l'exemple de ma famille, j'ai hérité des valeurs ancestrales, mais également des valeurs acquises qui viennent, par exemple, de l'Occident et puis de l'Orient. Donc, pour moi, la famille, elle ne se limite pas seulement à la question de parenté, de consanguinité, mais c'est une question de partage, parce que la famille, pour moi, c'est quelque chose qui va de là dans le sens plus large.
Oui, elle véhicule des valeurs, elle vous forme, en fait, pour la vie.
Exactement. Et elle transmet aussi, parce que, en fait, c'est la pérennisation de ces valeurs-là.
Oui.
On se partage des valeurs, et puis on les promeut, et on les transmet également, afin qu'elles soient pérennisées et qu'elles ne meurent pas.
Oui, mais malgré tout, les choses ont évolué avec le temps, un petit peu. Enfin, du moins, peut-être, en tout cas, dans les grandes villes, du moins, probablement plus qu'encore dans les campagnes. Est-ce que vous pensez que, du coup, ça peut menacer la famille? Enfin, les fondements tels qu'on les connaissait avant, justement, et les valeurs ancestrales dont vous parliez?
Oui, parce qu'en fait, il y a aussi les questions de la mondialisation et des valeurs externes qui viennent. Parce qu'avant, les gens font plus, parce que les questions de travail, aujourd'hui, il y a le travail, les gens n'ont pas trop de temps pour partager entre eux. Mais toutefois, ces valeurs restent. Moi, je prends par exemple mon exemple. Moi, aujourd'hui, je ne vis pas au Tchad. Depuis 3 ans, je suis à Niamey. Mais cela ne me permet pas, ça ne m'empêche pas de communiquer avec ma famille. Et dès que j'ai le temps, je viens au Tchad, je vais au village, parce que c'est très important cet attachement aux valeurs ancestrales, parce que c'est ça ce qui nous définit.
Oui, hier, le retour aux sources.
Exactement, le retour aux sources. Et hier, je parlais avec ma sœur, je dis qu'aujourd'hui, moi, je suis ici, mais je suis toujours attachée à mes valeurs ancestrales et quelque part, je cultive également les valeurs que j'ai acquises de l'Occident, de l'Orient et tout ça pour enrichir. Parce que pour moi, quelque part, il faut l'enrichir avec le temps, mais il ne faut pas l'appauvrir parce que ça s'appauvrit. Hein. Ça s'appauvrit. Moi, j'ai remarqué que ça s'appauvrit, mais quelque part, il faut que nous, surtout nous, les femmes, nous sommes des éducatrices, on doit trouver un moyen, malgré les distances et puis malgré également les retombées puis les influences extérieures, de cultiver ces valeurs pour leur apporter du plus-value.
Oui. Quand vous dites que ça s'appauvrit, c'est-à-dire qu'à cause justement de la distance dont vous parliez ou
La distance, le temps, aujourd'hui, il faut travailler plus pour gagner.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, les gens sont pris par le travail. Parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui viennent de plus en plus, on parle de développement. Et puis, développement, aujourd'hui, nous, en Afrique, on calque sur le système qu'il y a en Europe et tout ça. Donc, tu as plus de heures de travail.
Mais les femmes dont vous parliez, puisque vous disiez que ce sont elles, d'ailleurs, les éducatrices, ce sont elles qui sont souvent la base donc, du foyer. Mais les femmes, elles ont toujours travaillé.
Elles ont toujours travaillé à la maison. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant 10 ans avec une entreprise de téléphonie mobile. Donc, ça veut dire que je dois sortir de la maison très tôt le matin et puis je rentre le soir.
Oui.
Et puis, après ces 10 ans, j'ai démissionné et puis j'ai créé mon entreprise. Et là, je travaille depuis la maison. Donc, ça me permet de garder cette connexion et puis avoir du temps. Mais je pense que quelque part, en fait, il faut qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on trouve un moyen de composer avec ça parce qu'on ne peut plus éviter. Hein. On parle aujourd'hui du féminisme et tout ça. Donc, avec le temps, il faut qu'on trouve ces moyens-là pour faire le rapprochement des deux. Moi, le travail ne me pose pas trop de problèmes sur tout ce qui concerne la famille, la connexion avec l'ancestral et tout ça. Ça ne pose pas de problème parce que j'ai trouvé ma façon à moi de rester, de garder cet équilibre.
Oui. Et vous pensez que ce sont des raisons économiques, mais aussi sociétales, qui font que les femmes veulent travailler à l'extérieur? C'est une question économique, évidemment, puisque la vie devient de plus en plus chère et que souvent, un salaire salaire ne suffit pas à nourrir la famille? Ou est-ce que vous pensez que c'est
tout
aussi
fait.
Une question, oui, idéologique, que les femmes veulent aussi maintenant sortir et donc travailler comme elles le faisaient autrefois, mais dehors, à l'extérieur?
Oui, en fait, aujourd'hui, la question de gain est très importante parce qu'à la base, c'est d'abord la survie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a l'inflation. Et lorsqu'on compare notre vie, nous, à celle de nos grands-mères et de nos mères, c'est différent. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui émigrent même. Elles vont dans d'autres pays pour se chercher et puis pour se construire une condition de vie meilleure.
Oui.
Et quelque part, ça joue également. C'est très important pour les femmes aujourd'hui. Moi, je vois autour de moi, les femmes, elles parlent, moi, je veux me construire une maison, je veux avoir une condition de vie qui est meilleure pour moi, je veux que mes enfants soient à l'aise, je veux que ceci, cela, je veux avoir des moyens, si mes parents tombent malades, il faut que je paye et tout ça. Donc, il y a également cette question économique qui joue un rôle très important.
Oui, bien sûr.
Et je pense que quelque part, ça éloigne également parce que c'est question du temps. Hein. Tout est sur le temps, ça joue également sur le temps parce qu'on a besoin de temps pour ça, on a besoin de temps pour ça. Mais lorsque les questions économiques deviennent plus importantes que le reste, donc je pense que c'est ça ce qui crée le déséquilibre.
Oui.
Mais il faut trouver le moyen pour garder les deux.
Oui. Alors le thème famille et urbanisation vise à sensibiliser justement sur l'importance des politiques urbaines, durables et favorables à la famille. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, justement, les grandes villes sont adaptées aux besoins des familles? Ou qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'il y ait une dimension familiale dans l'urbanisation?
Oui, moi je vois par exemple le cas du Tchad. Quand moi je suis venue la première fois au Tchad, en fait, j'avais remarqué parce que lorsqu'on parle de la famille, on parle également des conditions de vie humaine. C'est-à-dire là où il existe les familles, il faut un espace pour les enfants, il faut un espace également pour les adultes.
Oui.
Il faut également un espace où les gens puissent s'épanouir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'urbanisme, il y a déjà le problème de construction parce que chez nous, par exemple, les matériaux de construction sont très chers et du coup, il n'y a pas une politique qui est vraiment sérieuse concernant l'urbanisation et puis les conditions de vie. Il y a le problème d'électricité, il y a le problème de l'eau, il y a également le problème d'espace vert. En général, par exemple, on n'a pas d'espace vert. Les espaces verts sont mis à la disposition des parkings auto pour ceux qui vendent des voitures et tout ça.
Oui.
Donc, il n'y a pas d'espace d'épanouissement. C'est très important, surtout pour les enfants. Parce que quand les enfants grandissent à un certain âge, ils ont besoin de cet espace-là pour créer des choses, pour s'épanouir et tout ça. Mais il n'y a pas cet espace.
Mm-hmm.
On le voit clairement au Tchad. Hein, parce que c'est important. Il y a la maison et puis l'extérieur et puis la sécurité.
Bien sûr.
C'est très important. Il faut que tu te sentes en sécurité quand tu sors. Il faut que tu te sentes en sécurité quand tu es chez toi à la maison. Et ça, c'est très important.
Oui. Et justement, est-ce que vous pensez que dans des pays, bon, bah, le Tchad aussi, mais ou comme le Niger aussi, où l'aspect sécuritaire pose problème en ce moment, est-ce que vous pensez aussi que ça joue un rôle justement sur les familles?
Oui, moi je pense que, en fait, la question de sécurité, par exemple, moi là, actuellement, comme je suis au Niger, les questions d'insécurité, on le sent plus dans les régions qui sont aux alentours, dans les milieux ruraux. Quoi.
Oui, qu'en ville, bien sûr.
Oui. Oui, mais on se demande toujours, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est ça aussi la question de l'insécurité, c'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment ça arrive.
Oui.
On sait qu'elle est existante, elle est existentielle, elle est existante parmi les gens, mais on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Mais
oui.
Quand tu te promènes dans la rue et tout ça, il n'y a pas trop de problèmes.
Mm.
Mais souvent, je pense que c'est une question aussi humaine, parce que des fois, on se dit, il faut toujours que je prenne des précautions, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive.
Quand on envoie les enfants à l'école, par exemple.
Exactement, quand on envoie les enfants à l'école, il y a les questions également de circulation, surtout il y a beaucoup d'accidents.
Oui.
Beaucoup d'accidents. Quand les gens conduisent, c'est pas... En fait, les gens ne respectent pas le code de la route et tout ça, et ça met en danger. Donc, quand les enfants sortent, tu n'es pas tranquille.
Mmh, bien sûr.
Et ça, ça arrive souvent. Il y a eu des écoles qui ont pris feu et tout ce ensemble. Moi, je pense que tout est lié, quoi. Tout est lié. Quand les choses sont bien gérées et quand il y a des contrôles et tout ça, donc je pense que ça peut arranger les choses.
Mmh.
Mais après, quand il n'y a pas de contrôle, ça va en sucette, quoi.
Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage et bonne soirée à vous, Salma.
Je vous remercie.
Merci.
Bonne soirée à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
La famille reste un creuset par excellence pour l'épanouissement individuel et collectif, malgré les transformations et mutations de la société, rassure la TIF de Lomé. La famille est un panier dans lequel on a tout type d'individus, du placide au colérique, en passant par le raffiné et le brutal. Pour la concorde et la solidarité dans une famille, il faut cultiver le pardon et la tolérance et accepter la différence, conseille-t-il. Et de noter que les réseaux sociaux ont permis à beaucoup de familles de se retrouver pour des réunions familiales via WhatsApp, par exemple. Ainsi, les gens disséminés un peu partout dans le monde ont appris à se connaître et à s'entendre sur ce qui concerne leur famille.
Yebisa, famito, lingaka, bango, ibosobawa,
Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission, comme tous nos magazines en podcast, rendez-vous sur notre site internet, notre adresse www.com/français-sans-cédille. Vous y trouverez aussi nos liens vers nos pages Facebook et Twitter, entre autres. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. En attendant de vous lire, excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.
Tango za na bomo la kisabango mutindo kani yolinga kabango yolinga kamutemai.